Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer en rond. CO2 mon amour, donc jusqu'à 15h avec aujourd'hui Jean-Noël Vélan et Bertrand Durand à la technique et assisté de Sophie Ledoré et de Jean-Christophe Pinaza. C'est Bertrand Chaumeton qui réalise cette émission. Allez, une petite humeur à bicyclette, parce que ça on en parle très peu, mais c'est quand même la fête du vélo, et oui, ce week-end, un peu partout en France, même avec un caouet, et avec pour commencer donc un coup de chapeau aux cyclistes, dont nous faisons partie d'ailleurs sans peur et sans reproche, qui s'aventurent dans les villes, dans les petites rues, les grands boulevards, les couloirs d'autobus, les bandes cyclables, où l'on se sent parfois, hein, je dis bien parfois, pas toujours, au moins autant en sécurité qu'un hérisson au bord de l'autoroute. Alors au programme de la fête du vélo, donc, on trouvera des rencontres, des randonnées urbaines, des excursions, des pauses casse-croûte garanties sans EPO, sans oublier de passer par la case bureau de vote demain dimanche, bah oui, pour désigner nos députés européens, dont le rôle, rappelons-le, n'est pas seulement de discuter du calibre des œufs bio et du format des briques de lait, mais aussi et surtout de prendre pendant les 5 ans qui viennent toute une série de décisions quant à l'avenir durable, soutenable de l'humanité et de ses congénères sur cette petite planète. Alors à la rubrique sauvegarde de la biodiversité, par exemple, vous avez le réseau écologique pan-européen, qui est aussi d'ailleurs un des chapitres du Grenelle de l'environnement et qui s'appelle chez nous la trame verte et bleue, avec ses forêts, ses prairies, ses bocages, ses zones humides, ses cours d'eau, ses corridors écologiques dont on vous a déjà parlé. On va dire l'équivalent des pistes cyclables en quelque sorte, mais pour toutes les espèces à plumes, à pattes, à nageoires qui ne portent pas de gilet jaune. Voilà, avec test grandeur nature ce mois-ci dans le charmant petit village de Verberie. Ah, alors Verberie, c'est à deux pas du parc naturel régional qui se trouve dans l'Oise et où on se demande si le lobby des cerfs et des biches fera le poids face aux 80 emplois promis par Direct Energy pour construire une centrale électrique à gaz le long d'un des derniers corridors biologiques de la région. Bah, vous comprenez, amis cervidés, le gaz c'est tellement moins polluant que le charbon. D'ailleurs, c'est Jean-Louis Borloo qui l'a dit mercredi en présentant son programme d'investissement énergétique pour les prochaines années. Notre ministre annonce qu'il mise à fond sur les économies et les énergies renouvelables. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais pour ce qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, fermez donc ces vieilles centrales à charbon que je ne saurais voir. Ce qui donne, traduit en langage courant, pour remplacer tout ça, vous avez mon feu vert pour une petite vingtaine de centrales à gaz. Alors notez qu'en France, on n'a pas plus de gaz que de pétrole et que nos amis de Russie, on l'a constaté cet hiver, sont plutôt un petit peu chatouilleux quand même du côté du robinet. Avec pour nos futures centrales, pas trop de soucis parce qu'on va acheminer le gaz liquéfié par bateau, ce qui, soit dit en passant, alourdit de façon quand même non négligeable le bilan énergétique de l'opération. Et pour la livraison, bah, on va vous planter deux ou trois ports méthaniers sur ce qui nous reste de côte sauvage, c'est-à-dire au Verdon-sur-Mer, à la pointe de l'estuaire de la Gironde. Là, ils sont très bien remontés, à juste titre. Ou bien à Saint-Jouin-Bruneval en Normandie, sa plage de sable, ses galets, ses futurs réservoirs de gaz de 50 mètres de haut et son usine de regazéification. Et puis tous ces chantiers, bah, ça nous fera peut-être de bien belles sorties découvertes pour la prochaine fête du vélo, non ? Alors un thème qui est important aujourd'hui, la ville autrement, la ville soutenable, la ville durable avec nos amis d'alternative économique, puisque donc un numéro spécial vient de sortir. On le rappelle, 50% de la population est urbaine dans le monde, 80% à peu près en France, donc l'avenir va se jouer quand même beaucoup, beaucoup dans les villes. On souhaiterait évidemment que tout ceci s'améliore, donc il faut partir évidemment de ce qui est existant. Donc nous avons deux invités pour en parler, Blaise Desbordes, qui appartient d'ailleurs à la Caisse des dépôts et qui est responsable du développement durable, et Nahiri Nahapétian, qui a été une des responsables de ce numéro spécial, l'alternative économique. Alors, peut-être d'abord question à vous deux, effectivement, définition d'une ville soutenable, d'une ville durable. Tenez, Blaise Desbordes, s'il vous plaît.
Bonjour Denis, je crois que ça n'existe pas, donc c'est une définition qui est théorique, entre guillemets, mais c'est une ville qui est comme une autre ville, simplement elle a un grand dessein, réduire considérablement la ponction de ressources qu'elle opère sur l'ensemble de la biosphère. Ça, c'est pour l'aspect environnemental. Et puis maintenir à tout prix la diversité, le lien, la cohésion sociale entre ses habitants. Je crois qu'avec la création de richesses, qui est le troisième pilier économique indispensable, on a là un petit portrait robot, mais esquissé à gros traits.
Nahiri Lapétien, alors je vous en prie.
Alors, oui, j'ai juste ajouté un mot qui est que c'est quelque chose de très concret, parce que c'est une ville où on ne perd pas sa vie dans des trajets interminables en voiture. C'est une ville où on habite dans des logements qui sont bien isolés, confortables, où on paye pas des notes d'électricité monstrueuses. Mmh. Voilà, c'est une ville où on peut accéder facilement au commerce et aux espaces verts, donc c'est quelque chose qui est synonyme de bien-être pour tous.
Et avec le métro-bourg qui va être proximité quand même.
Oui, 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 proximité et mobilité, tout à fait.
Alors évidemment que c'est compliqué, mais le chemin est quand même connu pour y arriver. On sait qu'on a beaucoup d'obstacles qui sont hérités vraiment d'une toute autre conception de la ville. On va pouvoir en parler avec nos invités, puis dans quelques instants, je vais vous emmener à Metz, et oui, et avec Jean-Marie Pelt, et on va aussi parler donc de cette ville avec lui, ce sera juste après Amadou et Mariam.
Tu peux aller le chemin libre. Tu peux bouger, la vie est super.
Tu as perdu ton boulot dans cette ville.
Ma cité l'a dit.
Ta femme t'a quitté à cause de ça. Là.
Ma cité l'a dit.
Tu as perdu ta famille dans cette ville.
Ma cité l'a dit.
Et tes amis t'ont quitté à cause de ça. Là.
Ma cité l'a dit, ma cité l'a dit, viens galanceuil. Tu ne peux pas rester, tu ne peux pas rester dans cette vie-là, il faut te l'acheter. Tu peux aller le chemin.
C'était Ma cité l'a dit, choisie par Emmanuel Chupin, notre programmatrice, notre premier disque, avec la participation de M, autrement dit, de Mathieu Chédid, bien sûr, et avec la participation de Jean-Marie Pelt. Eh ben, allez, tout de suite, et M comme la ville de Metz, charmante bourgade de la Moselle, 120 000 habitants, on y va, c'est parti. Pour tout vous dire, voilà, c'était un reportage, j'ai tourné il y a 2 ans, et puis je me suis dit, mais tiens, mais ça irait très très bien, on l'a pas diffusé ça pour notre émission, allez, on y va. Bonjour cher Jean-Marie.
Bonjour Denis.
Et alors là, on est chez vous à Metz, dans un univers urbain, donc on entend les voitures, Et donc on l'a compris, on est vraiment dans le centre de Metz. Merci beaucoup messieurs. On s'est pas fait écraser, dites donc, c'est quand même une très très bonne nouvelle. Et alors ce qui frappe tout de suite, Jean-Marie, on va parler d'écologie urbaine avec vous bien sûr, mais c'est la couleur de la pierre ici, donc à Metz, c'est de la pierre jaune. Qu'est-ce que c'est comme pierre ?
Oui, c'est un grès qui est utilisé depuis 2000 ans, oui. Parce que les Romains l'utilisaient déjà. Et ce grès fait que toute la ville a cette couleur et qu'en fait, c'est une pierre blonde. Donc on peut dire que comme Toulouse est une ville rose, ouais. Metz est une ville blonde.
D'accord.
Voilà, c'est la ville blonde. Pendant la période où les Allemands ont occupé Metz, l'annexion de 70 à 1919, ils ont utilisé une pierre venant des Vosges. Mmh. Qui est un grès rose. Donc la partie germanique de la ville est en grès rose. Et cette partie germanique est particulièrement intéressante parce que le Kaiser a voulu montrer qu'il était ici chez lui. Il a fait cette gare monumentale, cette poste monumentale, et la somme des deux, avec ce qu'il y a autour, est un quartier qui a été proposé au patrimoine mondial de l'UNESCO tout récemment. Parce qu'il est le quartier le plus original de l'art néo-roman germanique. Le Kaiser Guillaume II a fait mieux ici qu'il a fait dans n'importe quelle autre ville d'Allemagne. Et ça, c'est la partie, disons, allemande de Metz.
Alors Jean-Marie, cette ville, pendant, on va dire, deux mandats, vous avez été donc adjoint au maire, et vous avez été un des premiers à lancer ce qu'on appelle l'écologie urbaine, qui était un ovni total, quoi, dans les années 70. Donc en quoi ça consistait ?
C'était l'idée qu'une ville n'était pas vouée automatiquement au béton, et mais ça avait de vastes ambitions. Et ces vastes ambitions ne pouvaient vraiment réussir que si on détruisait toutes ces affreuses vieilles maisons. En fait, ces affreuses vieilles maisons étaient des maisons du Moyen-Âge, extrêmement typées, très originales, avec des toits en pointe de diamant, comme on en fait qu'à Metz, qui est spécifique du style messin. Alors, on a donc dit qu'on allait restaurer le patrimoine ancien, qu'on allait restaurer les grands monuments, qu'on allait faire rentrer la nature en ville, qu'on allait faire rentrer l'eau en ville, et qu'on allait faire une très belle harmonie entre la fameuse pierre blonde, entre l'eau abondante, puisqu'il y a la Seille, la Moselle et tout un chapelet d'îles, il y a beaucoup d'îles, et puis la verdure, parce que l'environnement immédiat de l'hypercentre est très vert. Et on a donc marié ces trois éléments pour faire ce qu'on a appelé une ville-jardin. Et on a, à ce moment-là, baptisé Metz la ville-jardin. Actuellement, au bord de la Moselle, au bord du plan d'eau et au bord de la Seille, et plus loin ensuite, il y a une dizaine de kilomètres de promenade à pied. Promenade très douce d'ailleurs, fleurie. On a sauvé 6 quartiers de la démolition dans le centre historique. Et on a choisi cette couleur blonde qui donne cette unité à la ville. Alors on a inventé les premiers en France, les rues piétonnes à Rouen. C'était les deux premières rues piétonnes, la rue du Gros Horloge et ici la rue Bonne-Ruelle. On a inventé des minibus qui empêchaient les gros bus de circuler en ville. On a inventé le tri très tôt des déchets, donc on a décliné en gros les différents aspects de l'écologie. Mais enfin, il faut bien se souvenir que c'était il y a 35 ans. Oui. Nous étions très très en avance. Je ne suis plus élu maintenant. Le maire a créé un nouveau quartier derrière la gare. Il a commencé très sagement par y faire un très grand parc, très réussi. Il s'appelle le parc de la Seille, où on n'a pas du tout fait un parc classique à la française ou à l'anglaise ou autrement, mais où on a fait des mouvements de sol, où on a eu soin de planter des mirabelliers, du houblon, où il y a du lagunage, où il y a une île aux oiseaux, où il y a vraiment une écologie vivante. Alors comme le TGV a débarqué, voilà que c'est tendance de venir à Metz. Eh bien, ça peut être contemporain et beau, ce qui est rare, et ça peut être contemporain et moche, ce qui est fréquent.
Là, on arrive de nouveau devant la cathédrale, éclairée maintenant, avec les vitraux mis en évidence.
Oui.
Ah, c'est vrai qu'elle est belle.
Oui, les vitraux sont éclairés de l'intérieur.
Ouais.
Et alors, il y a des vitraux du XIIIe siècle jusqu'au XXe siècle. Et au XXe siècle, il y a notamment les Villons et les Chagall. Et il y a plusieurs très beaux Chagall.
Excusez du peu, quand même. Hein.
Donc, elle a aussi une caractéristique, cette cathédrale, c'est qu'elle a 6000 mètres carrés de vitraux. Elle est donc très éclairée. Et on l'appelait la lanterne du bon Dieu. Parce que éclairée du dedans, elle éclairait aussi le dehors.
Au revoir, Jean-Marie.
Au revoir à tous, au revoir, Denis.
Voilà, donc on va quitter donc les rues de Metz avec cet homme qui avait très bien compris déjà, bon, bien sûr, la notion d'écosystème, ça c'est normal, mais aussi qu'une ville était un écosystème. Alors c'était peut-être ça le début, Nairi, et donc Blaise, de l'écologie urbaine. Bon, bien sûr, aujourd'hui, ça a évolué parce que le territoire, on va dire, du développement durable ou soutenable doit être plus grand, même effectivement, qu'une ville pour que ça puisse s'épanouir.
Oui, plus grand, peut-être aussi plus complexe, et j'aurais envie de dire par radio interposée à Jean-Marie Pell qu'il a des héritiers. Et pas plus tard qu'hier, je rencontrais le directeur de l'écologie urbaine de Barcelone, un homme extraordinaire, Salvador Rueda. J'encourage tout le monde à lire ses ouvrages. C'est un homme qui a effectivement, alors 35 ans après, cette pensée complexe, cette pensée métabolique de la ville. Et au-delà effectivement de la trame verte, de la trame bleue dont parlait Jean-Marie Pelt, on a aujourd'hui une extension spatiale de la ville, effectivement, qu'il faut prendre en compte, qui en fait des méga-organismes. Hein. Je peux citer par exemple l'étalement urbain à Houston. On est à 17 fois la superficie de Barcelone pour la même quantité d'habitants, le même nombre d'habitants. Donc il y a cet événement, Denis, vous avez raison. Et puis il y a aussi des circuits, des pollutions, des flux qui sont immatériels et qui aujourd'hui, on le sait, doivent être pris en compte. Je pense évidemment aux émissions de CO2, aux flux d'énergie, à la complexité des réseaux sous le sol de la ville. Et Salvador Rueda, donc, par exemple, est un penseur assez innovant en ce sens qu'il dit, par exemple, les urbanistes ne doivent plus travailler sur un seul plan. Il faut cesser le conflit entre les urbanistes et les ingénieurs. Aujourd'hui, l'urbaniste dessine et il dit quelque part, l'intendant suivra, l'ingénieur devra se débrouiller, hors des cons creuses, les réseaux sont pas où on les attendait, il y a le métro, il y a les canalisations, etc., etc. Il y a un métabolisme de la ville et Salvador prône, par exemple, qu'il y ait désormais 3 plans. Quand on fait de l'urbanisme, un plan qui s'attache au sous-sol, où sont les nappes phréatiques, où on va aller chercher de l'énergie gratuite, de l'énergie propre, où sont les réseaux, bien entendu, où est la complexité du sol. Un deuxième plan au niveau de la surface, celui qu'on connaît, hein, le tracé des routes, le tracé, l'emplacement des immeubles. Et puis un plan, disons, aérien, un plan en altitude, un plan qui va nous montrer l'exposition au ciel de la ville. Où est-ce qu'on va aller chercher le soleil? Où est-ce qu'on va avoir les rejets? Comment ça va se voir?
Alors justement, quand vous parlez de soleil, c'est intéressant parce que cette ville de Barcelone a quand même été aussi assez en avance. C'est très simple. Si vous devez construire quelque chose et que vous n'avez pas d'énergie solaire, vous n'avez pas votre permis de construire. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, donc là, c'est un peu directif, mais c'est une obligation. C'est incompréhensible que chez nous, par exemple, dans le sud de la France et même ailleurs, on n'est pas ce genre de choses. Vous voyez, donc ils se sont dit au moins le chauffe-eau solaire et puis aussi du photovoltaïque. Sinon, vous n'avez pas votre permis de construire.
Absolument. Alors, est-ce que ça sera la voie réglementaire que choisiront tous les pays? Je ne sais pas.
Non, il n'y a pas forcément.
La ville, c'est compliqué. Ah, oui, effectivement, oui. Il y a des enjeux d'emploi, il y a des enjeux de bâtiments, il y a des enjeux de besoin de logements en France. On manque de centaines de milliers de logements pour satisfaire. Donc, les pouvoirs publics ont parfois peur, par trop de réglementation, de freiner les constructions. Mais là, vous avez raison, c'est un exemple innovant qui sera suivi partout. J'en doute pas. En fortiori, après la conférence de Copenhague qui nous attend tous en décembre de cette année, il va falloir trouver un cadre à l'après Kyoto. Et ce cadre passera par l'environnement urbain, par le bâti. Le bâti, c'est presque la moitié des émissions de gaz à effet de serre quand on inclut les transports, la fabrication d'énergie, les villes, c'est la moitié du problème. Donc il y aura des réglementations, vous avez raison Denis, Barcelone sera innovante, mais déjà, j'ai envie de dire, partout on voit des innovations du même type qui n'ont pas besoin de la réglementation pour créer. J'ai envie de citer Malmö, une cité de Suède qui était ravagée par le chômage dans les années 90, la fin des chantiers navals, partie en Corée, des sols pollués, des polders inoccupés, une baisse d'attractivité, les gens qui partaient, et un maire vigoureux, intéressant, qui a voulu donner une stratégie durable à sa ville et qui, en construisant une sorte de quartier exemplaire, de quartier très ambitieux, a réussi à mettre 3000 personnes 100% avec des énergies renouvelables. Donc c'est plus un chauffe-eau solaire obligatoire comme à Barcelone, c'est 100% du besoin d'énergie des habitants de ce quartier qui s'appelle BO01, c'est un nom un peu technocratique, mais il s'appelle aussi la cité de l'architecture de demain. Et là, on va puiser dans la nappe phréatique la chaleur nécessaire. L'été, elle est montée dans des panneaux qui vont la réchauffer, elle est réinjectée ensuite pour que l'hiver, cette chaleur qu'on a collectée l'été puisse resservir au chauffage. Et au total, même les déchets là-bas servent à l'énergie des habitants puisqu'ils vont fabriquer du gaz qui amènera les bus. Et donc, entre la gare centrale et ce quartier, vous prenez un bus au biogaz grâce à vos déchets.
Nairina Pétian, juste effectivement, donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi entre un état des lieux et puis ce que l'on peut faire. Et ça, déjà, Blaise nous en a parlé avec d'autres exemples. L'état des lieux. Parmi les grands fléaux, alors on a, une fois de plus, il ne s'agit pas de fustiger quoi que ce soit, mais on le constate, c'est l'étalement urbain peut-être
arrive. Oui, tout à fait. Blaise en a parlé, mais c'est vrai que c'est le... Je vais peut-être faire un petit historique en fait de ce qui s'est passé. Il y a eu toute une période où en France, la planification urbaine fonctionnait, c'était les années 50-60, alors ça n'a pas donné forcément des résultats extraordinaire puisqu'on s'est retrouvé avec des grands ensembles.
Mais il a fallu loger les gens dans l'urgence.
Voilà, tout à fait, qui font un petit peu peur. Après ça, on a l'État s'est désengagé et a en quelque sorte laissé faire les promoteurs, laissé faire la spéculation immobilière qui a permis à la ville de s'étendre comme ça. Alors Blaise a cité un chiffre, je vais en citer un autre qui concerne la France, qui est que la superficie des agglomérations en un quart de siècle a augmenté de 75%. Et ce modèle d'urbanisme de la ville qui s'étend, évidemment, induit le fait que on va vivre dans des pavillons isolés, qu'on a besoin d'une voiture pour se déplacer.
La voiture est le prolongement de son chez-soi, on va dire que ça a été ça.
Tout à fait.
Alors donc on a cet aspect-là, évidemment, le couple infernal, on va dire, étalement urbain, donc et puis voiture. Le rôle du foncier aussi qui est important.
Oui, tout à fait, qui a pas été maîtrisé au cours de ces années parce qu'en effet les pouvoirs publics se disaient les gens rêvent du pavillon, les grands ensembles font peur, donc laissons-les s'installer en pavillon, sauf que les gens rêvent du pavillon, moi, je pense que c'est un petit peu un mythe ça, puisque les on voit bien que ce qui est le plus attractif c'est les centres-villes et que les couches de population les plus aisées ont plutôt expulsé les couches les moins aisées vers la périphérie et beaucoup de gens se sont
retrouvés. Donc les prix montent comme des malades et au lieu effectivement d'isoler sa maison avec cet argent-là, déjà tout l'argent passe effectivement, en tout cas une grande partie de l'argent passe dans le foncier. Alors c'est assez curieux parce qu'en même temps on parle de pénurie de foncier en France alors qu'on n'entend pas cela dans des pays beaucoup plus contraints, notamment en Europe du Nord. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le système institutionnel qui était défaillant ou...
Je crois qu'il y a eu une peur latente sur le fait effectivement de ralentir la construction. C'est un peu le l'adage, quand le bâtiment va, tout va, les gens cherchent à se loger. Nairi en a parlé, c'est le rêve du pavillon. Effectivement, le foncier, il existe aussi dans les centres-villes, mais il est compliqué. C'est un foncier qui souvent est pollué, qui a été délaissé par des industries qui sont parties s'installer dans des parcs industriels ou en périphérie. Il est plus cher, il est à dépolluer. Et donc la facilité, c'est d'aller voir effectivement en grande banlieue ou même à la campagne, prendre des champs de betteraves et les rendre constructibles en promettant aux élus qui n'en peuvent mais, les pauvres, par leurs contraintes budgétaires, qu'ils auront de la dotation globale d'investissement, de la dotation globale de fonctionnement, plus d'habitants, une ville qui croit, même si parfois c'est un village dortoir avec l'étalement pavillonnaire. Mais j'ai envie de rajouter, il y a quand même un paradoxe assez triste dans l'historique que vient de nous dire Nairi, c'est que les grands ensembles ne sont pas denses. Ils ont créé effectivement un repoussoir, ils ont créé un traumatisme. Mmh. L'élan pavillonnaire vient aussi effectivement du traumatisme des grands ensembles, mais ils ne sont pas denses. Mmh. La vraie densité, c'est effectivement le centre-ville dont vous disiez qu'il était attractif, c'est le Haussmann, et aujourd'hui, on sait parfaitement, et ça on le voit dans tous les écoquartiers qu'on peut visiter dans le monde, on sait construire des villes denses, attractives, où on va trouver les mêmes qualités que le pavillon. Et donc cette espèce de désir d'avoir un peu moins de vis-à-vis, d'avoir un bout de jardin pour les enfants, d'avoir un bout de terrasse pour soi, pour le barbecue, pour cette convivialité qu'on recherche, d'avoir la pièce en plus, la fameuse pièce en plus, un peu plus d'espace, on peut le trouver dans des écoquartiers bien conçus, bien denses, qui vont consommer 2, 3, 4 fois moins de sol qu'un étalement pavillonnaire, et qui vont nous mettre à proximité, à un jet de pierre, des transports en commun et de toutes les fonctions de la ville qui nous tiennent quand même à cœur, qui font le plaisir d'être un urbain.
Alors on va se lancer dans quelques instants sur la ville de demain, donc effectivement après avoir fait ces constats, parce qu'il y a des choses qui sont tout à fait possibles, faut le dire, je veux dire que c'était aussi un levier, on a l'impression que c'est lourd, ça va pas se passer que dans le neuf, loin de là, évidemment, c'est principalement la rénovation donc, sur laquelle il va falloir travailler, et bien ce sera juste après Camille, elle aussi, qui nous emmène où à Paris, ouais.
Non, on part pas tout de suite, hein. J'attends la fin de CO2 mon amour, on ira faire les courses après. En voiture? Ah non, pas sûr, je demanderai d'abord à Denis Chessou.
Fini les balades le long du canal, les escaliers des cartes postales, c'est fini Paris, c'est décidé, je me barre. Fini le ciel gris, les matins moroses, on n'est qu'à Toulouse, les briques sont roses, là-bas, Paris, les briques sont roses. Bouche de métro, les bateaux mouchés, la couleur de l'eau, c'est fini Paris, je les connais trop. Ici je m'ennuie, même quand vient la nuit, on dit que ces villes s'éveillent à minuit. Là-bas, Paris, la ville s'éveille à minuit.
Et oui, c'était Camille, c'est très agréable sur France Inter, CO2 mon amour. Bienvenue donc dans ces villes avec Alternative Économique et ce numéro donc la ville autrement. En général, vous avez alors on va dire une moyenne entre 40 et 60% quand même de la voirie sur une surface d'une commune. Donc on a donné beaucoup d'espace public aux conducteurs. Alors maintenant, on essaie de les chasser, vous avez remarqué hein, ça. Donc ça en énerve beaucoup. Bah oui, parce que le culte de la bagnole, hein, c'est pas du jour au lendemain qu'on va les éradiquer. Alors, Nairi Naapetian, ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant quelles sont les nouvelles priorités donc, qui apparaissent et qui sont déjà là pour essayer d'envisager une ville en 2030 qui soit mieux, quoi.
Donc on a beaucoup parlé de l'étalement urbain, du fléau de l'étalement urbain. Bah aujourd'hui, il faut densifier la ville, notamment en construisant sur les friches qui sont à l'intérieur des villes. Donc ça, c'est vraiment l'une des priorités. Réactiver l'agriculture périurbaine, non seulement pour préserver la biodiversité, mais aussi pour permettre l'approvisionnement de ces villes en
maraîchage, voilà, etc. Exactement. Et donc d'éviter d'avoir une fois de plus 800 km pour une tomate, quoi. Enfin,
tout à fait, tout à fait. Et puis, à l'intérieur de la ville, développer les transports en commun propres et le vélo, sachant que tout ça est lié, que une ville plus dense est une ville où il est plus facile de développer les transports en commun. Et que voilà, la ville durable, qui est un idéal, fait système.
Alors, avant de passer sur ce qu'on appelle les écoquartiers, parce que ça, évidemment, ça fait toujours rêver, quels sont, Blaise, des bords, peut-être les poncifs que l'on a par rapport à toutes ces problématiques ?
Le poncif le plus communément entendu en ce moment, c'est une ville pour les riches. C'est des quartiers neufs, c'est des nouveaux systèmes, des nouvelles technologies, des appartements quelque part de luxe qui ne nous concernent pas, nous, les uns, les autres, la ville habituelle. Or, rien n'est plus faux. Rien n'est plus faux pour une raison, je crois, assez simple, que beaucoup de penseurs bien plus compétents que moi ont expliqué sur la ville durable. C'est que la ville d'urbanité, c'est l'espace public. Et cet espace public, c'est lui qui souffre le plus quand la ville est non durable, quand la ville est polluée, quand l'espace n'est pas accessible aux enfants, quand on ne peut même pas être côte à côte pour se parler quand on avance dans la rue. C'est si fréquent, et surtout à Paris. Donc, redonner de l'espace public à la convivialité, au lien social, aux gens, aux pédestriennes, comme disent les anglo-saxons, à ceux qui marchent à pied.
Ceux qui ont deux jambes.
Ceux qui ont deux jambes, absolument, et pas simplement une pour l'accélérateur.
Et oui.
Eh bien, c'est faire de la ville durable, c'est faire du lien social, c'est rajouter de la sécurité, rajouter de la convivialité. Donc, ce n'est pas du tout, le projet de la ville durable est avant tout un projet pour les plus modestes, précisément. Eux ne vont pas s'échapper le week-end vers une destination de rêve, vers une plage carbonifère, j'ai envie de le dire, parce qu'on s'échappe souvent en avion. La recherche de la qualité de vie, c'est vrai, est portée par une partie de la société en ce moment, qu'on nomme de manière péjorative les bobos. Mais c'est normal, c'est eux qui sont, quelque part, ceux qui vont demander, qui vont exiger qu'on soit plus durable. Mais ils vont entraîner un mouvement qui, lui, bénéficiera aux plus modestes.
Alors, je vais vous emmener à Lille, parce que là, il y a quand même des expériences qui sont tout à fait intéressantes. Donc, nous sommes dans ce département du Nord et nous allons rejoindre Daniel Pouliotre. Ah, alors petite balade dans l'île aujourd'hui avec Daniel Pouliotre qui est adjointe au maire et puis donc depuis longtemps chargé à la fois du développement durable et de la qualité de vie. Et alors cher Daniel, on va aller avec vous dans ce qu'on appelle les courées. Qu'est-ce que c'est une courée ici ?
Les courées, ce sont des sortes d'impasses. Hein. C'est un habitat industriel ancien, ouais, puisque ça a été notamment développé au moment de l'industrie textile, au démarrage. Donc souvent des cités un peu inconfortables, mais qui depuis un certain nombre d'années, progressivement, sont réhabilitées et qui deviennent des lieux assez convoités, notamment par des jeunes ménages, etc.,
d'accord,
quand on a réhabilité.
Ah voilà, donc c'est effectivement, c'est une petite cour, voilà, avec un lierre, mais le lierre, de toute façon, ça grimpe partout, donc quoi qu'il arrive, et puis des rosiers sur les murs, je dirais, de briques tout à fait traditionnelles. Vous avez toujours été très sensible, alors, je dirais, dans le Nord d'une manière générale, mais ici en particulier, à tout le lien entre le social, l'écologique, la santé aussi, enfin tout est mêlé.
Bien sûr, tout est mêlé. Ben, finalement, le développement durable, c'est permettre à l'homme de vivre bien aujourd'hui et demain. Ouais. Il lui faut un bon environnement sain, de qualité, pour aujourd'hui et pour demain. La meilleure façon que les habitants s'intègrent et participent, c'est qu'on parte vraiment de leur vie, de leurs préoccupations quotidiennes, et qu'ils aient le sentiment qu'on ne vient pas plaquer quelque chose d'extérieur, mais bien au cœur de leur vie, finalement, leur donner de la plus grande qualité et puis la préoccupation pour l'avenir, pour leurs enfants.
Il y a déjà des résultats, c'est-à-dire que vous avez des gens, effectivement, qui ont réussi à faire des économies, qui se nourrissent mieux, qui consomment moins d'eau.
Alors, je travaillais au début de l'après-midi avec des familles qui vont dans les centres sociaux,
ouais,
qui sont en train de créer un ch'ti responsable.
Ch'ti responsable.
Un ch'ti, okay, responsable, ouais, donc qui va sortir avec trois grands chapitres. Le grand chapitre du logement, hein, qui est une condition incontournable pour bien vivre aujourd'hui. la consommation avec l'alimentation, mais aussi avec les produits d'entretien, etc. Comment aujourd'hui on gaspille avec et on rend toxique notre environnement, tout ça. Et puis l'aspect démocratique, comment on peut mieux s'approprier aujourd'hui toute cette innovation possible dans la société, mais pour la vie de tous les jours et avec le maximum d'habitants.
Alors on va lever les yeux maintenant dans cette courée, non pas forcément pour regarder les oiseaux ou les images, et les nuages, pardon, les images aussi, pourquoi pas. Quoique, hein, c'est quand même tout à fait agréable, mais il y a aussi les lampadaires et l'éclairage public, et là aussi, très forte préoccupation à Lille.
La première chose, et je crois que c'est, elle est fondamentale dans notre société, c'est pas d'abord penser technologie nouvelle et énergie renouvelable, c'est d'abord penser sobriété. On a économisé 28% dans l'éclairage, en supprimant les lamboules qui renvoient la moitié de la lumière vers le ciel, font de la pollution lumineuse et ne servent pas du tout aux habitants. 28% de la première année. 1,3 million d'euros économisés dès la première année en supprimant ces lamboules et donc en économisant les
énergies. C'est-à-dire les grosses lampes toutes rondes, c'est ça ?
Voilà, il y en a partout, dans toutes les villes de France. On a mis ça partout à une époque. Je pense qu'on a beaucoup à regarder, non pas pour se serrer la ceinture, mais pour bien vivre sans gaspiller.
Et ça rappelle tout à fait la politique des mégawatts, c'est-à-dire effectivement que la meilleure électricité, la meilleure énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas. Donc pour beaucoup de gens, c'est pas très porteur, alors qu'en fait, c'est là le premier gisement.
Alors on doit passer d'une logique de vente de produits et de marchandises ou de flux à une logique de vente de services. Oui. On a besoin, quand on prend un train, on n'a pas besoin d'acheter le train, on a besoin du service dans tous les domaines. Et je pense qu'il y a
Pour la voiture, ce sera comme ça sûrement plus tard.
Voilà, la voiture en colocation ou en voiture partagée, etc., en service partagé, de plus en plus. Et au niveau de la ville de Lille, on réfléchit beaucoup à la notion de service. C'est d'abord le service qui doit primer. Et donc, comment on fait un service de grande qualité tout en économisant, effectivement, les ressources qui vont être utiles pour nos enfants et nos petits-enfants.
Alors, vous l'avez fait donc pour la lumière. Donc, 28%, vous le rappelez, effectivement, la première année. Oui. On va aller jusqu'à combien comme
Alors,
ça
Alors, l'objectif, c'est d'économiser au moins 42% d'énergie. Oui. On ira au-delà. Tous les ans, je fais le point. On peut aller au-delà. On peut faire mieux, encore une fois. On est déjà quand même, on était en décembre, à 34,5% d'économie. C'est très, très important.
C'est chiffrable, c'est quantifiable.
Ça, c'est chiffrable. Ouais, alors, d'accord. On économise l'énergie. On développe des énergies renouvelables, y compris dans l'achat de l'électricité. On a 30% d'énergie renouvelable. C'est malheureusement encore seulement de l'hydraulique en France. On n'a pas encore beaucoup d'autres énergies renouvelables. On élimine la pollution lumineuse, on rend un meilleur service à la population, on veut développer de la qualité également. Oui. Par exemple, rue des Postes, on avait des lampadaires à 12 mètres qui renvoyaient au milieu de la rue la lumière. Ben non, c'est le trottoir qu'il faut éclairer. Oui. Les voitures ont leur propre feu. Donc, c'est penser vraiment le service à la population dans le détail. Ça nous fait bouger beaucoup.
Et vous n'avez pas plus de crimes pour ça, on va le rappeler, parce qu'il y a sur ce côté extrêmement sécuritaire. On se dit, s'il n'y a pas de lumière ou s'il y en a moins, je vais me faire égorger. Pas du tout.
Oui, et puis la lumière, ce n'est pas la consommation de watts. C'est ce qu'on appelle les luxes. C'est finalement la quantité de lumière dont on a besoin. Et là, on peut beaucoup économiser, donc en termes d'énergie. Et notre marché le permettra. On innove aussi dans les énergies renouvelables. On est en train de travailler sur des petits lampadaires dans les cimetières qui seraient solaires et éoliens. Vous voyez, même l'innovation, même pour les cimetières.
Mais qui marchent au feu follet, au méthane.
Alors, peut-être demain. Mais on aura certainement encore des tas de possibilités. Alors, c'est formidable en même temps parce que c'est un appel à l'imagination et c'est passionnant.
Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à faire ça et à changer, enfin, au-delà de l'aspect économie d'énergie ?
Alors, la volonté, c'est aussi d'avoir une qualité lumière différente. Ouais. On a trop souvent des éclairages publics qui sont des éclairages d'aéroports, etc., de parking. Et donner une ambiance, dans notamment une courée comme celle-ci, mais aussi dans un certain nombre d'endroits, c'est aussi recréer tout un climat différent. Mmh. Alors, ça plaît beaucoup aux jeunes, notamment, qui en général disent « Oh, c'est très très bien, ça donne notre ambiance. »
Les personnes âgées... Surtout quand ils sortent de la boîte de nuit, quoi, ça le calme bien.
Les personnes âgées sont quelquefois un petit peu plus réticentes au départ, parce qu'elles disent « Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un peu un boui-boui, qu'est-ce que c'est ?» ça a une connotation, une lampe rouge quelquefois. Mais alors, on a testé, on a enlevé, ils ont dit « Oh là là, mais c'est moche maintenant, ça nous éblouit. » Et finalement, ils s'étaient déjà habitués à cette nouvelle lumière et ils n'aimaient plus la lumière blanche comme elle était précédemment.
Alors là, ça devient quoi? Parce que évidemment, c'est pas un claque avec une lumière rouge, on a bien compris, mais c'est plutôt rosé, c'est ça?
Oui, c'est rosé, ouais, c'est une ambiance très douce. Hein, c'est pas...
Là, je dépasse un tout petit peu le sujet, mais quand même, on est en plein dedans. Daniel Pouliot, parce que vous suivez tout ça depuis déjà de très nombreuses années, vous étiez vous-même aussi à Rio en 1992. Comment vous voyez cette société, je dirais, aujourd'hui quand même de dingue, dans laquelle effectivement on vit? Qu'est-ce qu'il faut pour essayer d'emmener le maximum de gens dans cette affaire?
On est allé au bout de ce qu'il ne fallait pas faire. Et qu'il y a aujourd'hui un potentiel énorme et une recherche aussi à la fois d'éthique, d'innovation, d'intelligence collective qui peut nous conduire à relever, au contraire, je dirais, les défis actuels. Et il y a peut-être une opportunité pour passer d'une société qui a choisi un modèle qui s'est imposé partout, à la construction d'autre chose qu'on appelle coproduire avec le maximum d'acteurs aujourd'hui. Et ça, c'est passionnant, parce que je crois que au lieu de considérer les citoyens comme des simples utilisateurs consommateurs, je pense qu'ils peuvent contribuer aujourd'hui à, avec nous, construire des nouvelles solutions. Et je crois qu'il y a là un potentiel énorme d'une vie meilleure pour l'avenir.
Voilà, donc une femme assez formidable qui y croit depuis de très très nombreuses années. Et donc, Nahiri et Blaise, vous opiniez, comme on dit, effectivement, en l'écoutant. Un petit rappel, ça c'est important, c'est que l'urbanisme ne se réduit pas qu'à des programmes qui sont conçus par des experts. Il y a les gens, quand même.
Absolument. Les villes durables comme un rêve d'ingénieur, c'est l'impasse garantie. On l'a vu avec le projet de Dongtan en Chine, présenté dans tous les médias du monde entier, la ville parfaite, la ville zéro déchet, etc. Elle est repoussée de mois en mois, d'année en année. C'est infaisable, alors qu'à côté, les métropoles crève, passez-moi l'expression, sous la pollution. Donc le rêve d'ingénieur, non. La participation partout où la ville durable marche, c'est que les gens sont associés. Même quand théoriquement, sur le papier, techniquement, on pensait pouvoir se passer de leur avis, il ne faut pas le faire, et les acteurs qui réussissent ne le font pas. J'ai envie de citer Vancouver. Vancouver, c'est pas un petit village gaulois, une des plus grandes villes du Canada. Et bien la stratégie urbaine depuis des années, voire depuis les années 70, est définie de manière participative, un plan stratégique participatif. Donc partout, c'est absolument indispensable et décliné à tous les niveaux, du plus petit quartier jusqu'à la grande ville.
Mais écoutez, on va changer là aussi de latitude et puis on se retrouve dans quelques instants après Sugar Sugar.
I wake up with the sunrise. Rise and shine is but a up and I'm thinking, can you run it by no means? Means I will never ever brew ourselves a tea for two. Such a precious story, boy, you'll be my foil. Hang on, hold on, wait on till I decide what to do. With the sunrise, rise and shine is but a lie. Lie up, that is my other middle name. Name and shame me, please, please me. You take me for your new queen. Queen cakes are beyond your means. Means I will never ever. Just a tea, stir your milk up and sit down, please. No sugar, no coffee, no iced tea, no TV, no ice cream. Just a tea, stir your milk up and sit down, please.
such no a precious story. No coffee, no boy, wasting, no TV, fault. No ice cream, just a tea. Stir your milk up on and sit down, morning. Such no a precious story.
En fait, ils s'appellent Diving with Andy. Ils sont français, mais ils n'ont pas séché les cours d'anglais quand ils étaient jeunes. Alors, ils ont commencé par la bourrée auvergnate, et puis après ils se sont dit, mais non, ça ne marche pas, etc. J'ai rien contre. Hein. Mais voilà. Mais donc ils se sont dit, ah ouais, quand même, l'international, c'est pas mal. Et donc ils ont mis du sucre dans leurs chansons, et c'était tout à fait agréable. Nous revenons donc évidemment à ce numéro spécial d'Alternative économique, La ville autrement. Peut-être un petit rajout sur la participation, Nairina Pétion.
Oui. Je voulais juste ajouter que c'est pas juste un terme politically correct, quelque chose d'un peu démagogique. Voilà, oui. C'est vraiment au cœur de la ville durable. Prenons l'exemple de l'énergie. Si on veut changer de politique, on a été trop longtemps sur une politique centralisée qui partait de l'offre. Donc l'offre, c'était les grands industriels qui avaient tout intérêt à ce qu'on augmente notre consommation d'énergie. Et aujourd'hui, il faut mettre en place une politique décentralisée qui s'appuie vraiment sur les consommateurs, sur chacun qui devient vraiment acteur de sa consommation d'énergie. Quoi, la participation, c'est aussi ça.
Mais ça, on va y venir. Et alors, lorsque l'on voit, c'est vrai, l'urbanisme en France, ça relevait quand même pour l'essentiel de chaque commune, ce qui veut dire qu'on avait en gros 36 000 urbanistes en chef qui ont dessiné quand même pour beaucoup un désastreux paysage urbain, disons-le. On n'en veut pas du tout au maire, hein, c'est passé une seconde. Simplement, lorsqu'on est un maire localement, l'indicateur de croissance, il est démographique. C'est pas du tout l'empreinte écologique qui arrive. C'est-à-dire que, tout à l'heure, vous avez parlé, Blaise, de cette dotation globale de fonctionnement qui est beaucoup indexée donc, sur le nombre d'habitants. Donc voilà, donc c'est évidemment très tentant de faire de l'étalement urbain. Alors, ça va pouvoir changer, ça, cette affaire-là ou...
Oui, ça va pouvoir changer parce que, d'abord, les coûts des externalités environnementales, des pollutions vont augmenter. Aujourd'hui, on ne peut plus émettre impunément, entre guillemets. Hein. À Copenhague, encore une fois, on va avoir des nouvelles réglementations qui vont suivre. Chaque tonne de CO2 va sans doute avoir un coût dans les 10 ans à venir. Donc il y a cet aspect. Et puis surtout, on va découvrir que la ville durable, ça peut, entre guillemets, rapporter, pas dans un sens péjoratif, mais ça peut être économiquement viable. Et pas simplement à très très long terme pour les générations futures, mais aussi ici et maintenant. Bien gérer un quartier, bien le penser au niveau des circulations automobiles, ça fait économiser tout le monde. Il y a eu des calculs qui ont été faits sur un laboratoire vivant, qui est un petit quartier durable là au sud de Londres, à Sutton, qui s'appelle BZ, qui est mondialement célèbre. Ils ont testé comme ça le moins de voitures, les voitures en périphérie, le dosage exact. Déjà, vous enlevez les parkings souterrains. Les parkings souterrains, c'est entre 10 et 20% du coût des logements. Donc des logements durables vont peut-être être moins chers que les logements qu'on construit aujourd'hui si on s'y prend intelligemment à l'avenir. Première chose. Deuxième chose, Nairi l'a dit, les gens vont participer. Leur facture, ça va être aussi dans leur intérêt de la réduire. Et donc si les urbanistes, les constructeurs mettent, comme c'est le cas dans ce petit laboratoire anglais, les compteurs, le compteur d'eau, le compteur de gaz, le compteur d'électricité à hauteur des yeux, visibles dans la cuisine pour qu'on vive avec. Et on sache qu'être sobre, c'est aussi être sobre pour son propre porte-monnaie, bah tout ça va engendrer un certain nombre de comportements vertueux. À Fribourg, dernier exemple, vous avez très intelligemment l'agglomération qui a créé une carte orange, et une carte orange qui est moins chère que la nôtre pour des distances équivalentes ou plus grandes. Et petit exemple anecdotique, mais le dimanche, une seule carte orange pour un adulte suffit pour aller gratuitement avec toute la famille se promener dans l'équivalent de la forêt de Fontainebleau ou je ne sais pas, dans les forêts.
Ça doit être la forêt noire par chez eux, voilà. Mais c'est
comme ça, même le week-end, ils découragent l'usage de la voiture individuelle et des gains pour le portefeuille des familles.
Alors, justement, on a demandé dans le numéro à une architecte spécialiste de l'architecture durable, donc qui est Françoise-Hélène Jourda, de nous dire combien coûte un bâtiment durable par rapport à un bâtiment économique. Donc, elle nous a chiffré ce coût supplémentaire à 15%. Donc, voilà, 15% pour avoir des toitures végétalisées, une isolation par l'intérieur, qui est meilleur que l'isolation par l'extérieur, etc. Elle nous a quand même précisé que ce surcoût, c'était par rapport à des bâtiments très économiques qui ne sont pas durables au sens où ils se dégradent aussi très vite, quoi. Donc que c'était un surcoût par rapport à vraiment des bâtiments bas de gamme. Donc
il faut voir à long terme, il faut mesurer à long terme, et l'équation économique de la ville du bâtiment durable, on va la trouver en allongeant un peu en en élevant un peu notre regard sur plus d'années que simplement les 3, les 4, les 15 années pour amortir une maison ou les 20. On regarde devant, on pense au climat et les équations économiques, on va les trouver. Là où je rejoins Naïri, c'est qu'il y a des pionniers tels que Françoise-Hélène Jourda, il y en a d'autres, il y en a plein dans ce numéro que la Caisse des dépôts vraiment de manière enthousiaste soutenu pour qu'ils puissent sortir, parce que ce sont des gens qui pendant longtemps ont un peu prêché dans le désert et qui là sont mis en valeur de manière intéressante.
Naïri.
Dont Thierry Pacot, qui dirige la revue Urbanisme et qui a participé au numéro puisqu'on a fait le sommaire.
Vous avez raison de le citer, c'est un grand ponte, on l'entend sur France Culture, on l'invite aussi régulièrement dans nos émissions.
J'imagine.
Donc, merci aussi à Thierry Pacot. Alors tout à l'heure, j'ai lancé donc le mot d'éco-quartier, éco-quartier durable. Il y a à peu près, on va dire, 150 projets aujourd'hui en France, donc qui se targuent de cette appellation. Alors certains, on va dire, participent quand même au marketing vert purement cosmétique d'une ville, d'accord. Est-ce que il suffit de doter donc les bâtiments de façades en bois, de toitures végétalisées pour qu'ils soient éco-quartiers durables?
Ben non, surtout pas. Comme l'a dit Naïri, comme vous l'avez dit Denis, c'est systémique. La ville, c'est une pensée un peu globale, une pensée complexe, une pensée métabolique sur tous les flux. Et donc un vrai éco-quartier, c'est avant tout un éco-quartier qui certes est bien construit, mais dessert bien et de manière écologique le centre-ville. Là où on va aller amener ses enfants à l'école, là où on va aller au cinéma, là où on va aller faire du sport, se faire soigner, faire ses courses. Et donc la desserte avec la ville-centre, c'est l'élément essentiel. C'est presque les deux prérequis, des enveloppes de bâtiments qui sont agréables et pas gaspilleuses, et effectivement des transports facilités vers les fonctionnalités, vers là où la ville se fait.
Alors qu'est-ce qu'on aurait comme exemple? Moi je vois à Rennes, il y a un éco-quartier qui s'appelle La Courrouze, qui est peut-être un des plus avancés. On va remercier d'ailleurs aussi les friches militaires, hein, parce que très souvent, sont là, on ne sait plus quoi en faire, maintenant il n'y a plus de militaires. Donc, voilà.
C'est un exemple très intéressant, parce que il prend en compte les erreurs du passé. Alors, beaucoup d'éco-quartiers ont été taxés de ghettos pour riches, de petits ghettos pour riches. Et là, donc, ça ne peut pas être le cas, parce que déjà, la surface du futur éco-quartier, actuellement en chantier, est de 115 hectares. Il s'étend sur une friche à l'intérieur de la ville qui permet de relier d'autres quartiers. Donc il a une
5 minutes de la gare, je l'ai fait il y a quelques mois.
Voilà, il a une vraie fonction urbaine puisqu'il crée une liaison paysagère entre différents quartiers. La mixité sociale sera aussi au rendez-vous puisque un quart des logements sont des logements sociaux. Donc c'est un projet très 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 intéressant qui tire vraiment les leçons des erreurs du passé.
Comment vous la voyez, cette ville, autrement, je dirais, en 2030? Je pars pas sur du 2050, parce que beaucoup d'entre nous ne sera pas forcément là, mais 2030, c'est tout à fait effectivement abordable, surtout pour des jeunes qui ont 20 ans, qui nous écoutent. Tout ceci, évidemment, on va pas se faire d'un trait de plume, hein, parce que on change pas d'urbanisme comme on change de chemise. Hein, on sait qu'on ne va pas raser les lotissements. Faut juste rappeler qu'en 20 ans, un quart de notre parc urbain actuel va être soit reconstruit, remodelé, modifié, agrandi. Mais comment on l'imagine? Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même des sacrés possibles. C'est déjà là, quoi, cette histoire. On n'est pas dans l'utopie.
Non, on n'est pas dans l'utopie. Et puis, ça sera la ville. Ça sera la même ville. Ça sera là, simplement, on l'aura transformée. Ça restera notre ville, notre quartier. Mais comme on l'a dit sur la participation, qu'on aura contribué à transformer. Je voudrais citer quand même le fait que dans les quartiers de rénovation urbaine, en France, partout, qui sont souvent désignés par des sigles que personne ne comprend. Bon, l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, bien sûr, mais les US, etc., etc. Dans ces quartiers se montent actuellement des projets de rénovation durable où on pense un peu tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui dans l'émission à cette ville complexe, à cette ville plus équilibrée. Et pas plus tard que lundi prochain à Bordeaux, il va y avoir un concours qui a été présidé par Eric Orsena et qui va nominer, entre guillemets, désigner des lauréats de la rénovation urbaine durable avec derrière un guide. Comment faire mieux? C'est pour vous donner juste un élément de réponse, Denis, sur le fait que ça sera pas une ville abstraite, une ville nouvelle dans laquelle on va déménager et s'installer en 2030, comme vous le dites, ça sera la même ville, ça, simplement on en sera devenu acteur et on aura eu un grand dessin, un projet collectif, un projet qu'elle soit soutenable et qu'elle soit diversifiée, qu'elle soit accueillante pour tous.
D'ailleurs, vous citez Orsena et je cite aussi François Gréter qui est architecte. Donc avec Eric Orsena, ils ont écrit dans votre ouvrage, c'est à partir des quartiers en difficulté sociale, urbaine et économique forte que vont se forger les expériences les plus significatives concernant la ville de demain. Nous sommes là au carrefour de situations les plus critiques et de questionnements les plus actuels. Donc on est très loin effectivement des histoires de bobos avec ça. Hein, donc,
Absolument, parce que dans ces quartiers, effectivement, les trois question du développement durable, comment créer de la richesse économique, comment préserver le patrimoine naturel, comment maintenir le lien social, se trouve de manière très tendue et très controversée, réunie.
Et juste en un mot, la nature en ville, cher Alphonse Allais, ça doit être possible ça ou...
Bien sûr que c'est possible, il ne pensait pas à l'humoriste qui serait un jour entendu, mais on l'a un peu évoqué, Jean-Marie Pelt notamment. Ouais. La trame verte et la trame bleue contribuent à structurer et à faire baisser même l'anxiété, le sentiment d'insécurité. Elles sont présentes, elles marquent les divisions entre les quartiers, entre les îlots, parfois même entre les logements. J'ai vu des quartiers par exemple en Europe où de manière très intelligente et co-dessinée avec les habitants, au lieu de parpaings, au lieu de grillages, vous avez des haies végétales et les enfants, je vous l'assure, se les approprie de manière intelligente et vivante très très vite.
Merci à vous deux, Alternative économique poche la ville autrement, énormément d'indications. On sait très bien qu'on n'a pas pu aborder tous les sujets, c'est un petit peu la règle du jeu, mais un grand merci à vous deux, à bientôt. Merci à Jean-Noël Vélan et Bertrand Durand à la technique, à Sophie Ledoré, Jean-Christophe Pinaza et Bertrand Chaumeton qui réalisait aujourd'hui cette émission. Anne Gouzon a nourri donc les sites de CO2 Mon Amour, possibilité pour vous de l'enregistrer pendant une semaine, de la réécouter pendant 4 semaines. Elle sera rediffusée à 4h du matin dans l'émission nocturne de Brigitte Palchine. La semaine prochaine, je vous retrouverai au salon Terre et Lettres, un premier salon, ça va être en direct de La Rochelle avec un homme, tenez, qui connaît bien, parce qu'à la fois urbaniste et sociologue, je serai en compagnie entre autres de Paul Virilio, il y aura aussi Isabelle Autissier, on parlera du sol également avec nos différents invités, Claude Bourguignon, et puis dans quelques...